les podcasts de Radio Vatican.
Les lignes semblent en train de bouger au Yémen, avec une fragilisation interne des deux camps. Celui du président Abdrabo Mansour Hadi, soutenu par l'Arabie Saoudite, s'est fissuré quand des séparatistes ont annoncé jeudi 15 mai 2017 la création d'une autorité parallèle pour administrer le sud du pays. Dans le camp opposé, l'alliance entre l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh et les rebelles houthis aurait du plomb dans l'aile. Tout cela dans un contexte de situation humanitaire catastrophique. En plus de la famine, une épidémie de choléra a fait au moins 115 morts en 2 semaines dans le pays, selon le Comité international de la Croix-Rouge, poussant les rebelles à déclarer l'état d'urgence sanitaire dans la capitale Sanaa qu'ils contrôlent. Comment expliquer les tensions des deux côtés et quelles conséquences possibles sur la mise en place d'un cessez-le-feu ? Les réponses de Franck Mermier, anthropologue et directeur de recherche au CNRS.
Cela fait déjà plusieurs mois que le président Saleh a des problèmes avec son allié, donc les rebelles houthis au pouvoir à Sanaa. Ces problèmes se sont exacerbés récemment avec des critiques qui fusent des deux côtés. Donc cette coalition commence un petit peu à tanguer. Et donc l'ex-président Saleh a exprimé, lui, son désir de renouer les discussions avec l'Arabie Saoudite, ce qui permettrait finalement aussi à l'Arabie Saoudite de terminer une guerre sanglante au Yémen et surtout qui n'a pas donné des résultats escomptés, si ce n'est la reprise des provinces du Sud. Donc finalement, ça lui permet de renouer avec les négociations, mais surtout de faire accepter un plan de paix. Donc cela permettrait évidemment d'arriver à un gouvernement d'union nationale, parce que dans ce plan de paix, il est prévu que toutes les parties politiques au Yémen soient représentées.
Alors, pour repartir sur les tensions dont vous avez parlé entre l'ex-président et les Houthis, quelles sont-elles ces tensions et quelle est la marge de manœuvre de l'ex-président ? Est-ce qu'il est, comme l'Arabie Saoudite l'a dit, le quasi-otage des rebelles ?
Saleh essaie de faire croire qu'il est l'otage des rebelles houthis, mais il faut savoir tout de même qu'il contrôle encore une grande partie de l'armée yéménite. Ce sont quand même ces forces armées qui sont le plus grand atout de l'ex-président Saleh et qui fait que son rapport de force avec les houthis, avec ses alliés encore, est encore à son avantage en partie, puisque justement les tensions ont augmenté lorsque les rebelles houthis ont commencé à nommer des officiers parmi les troupes dirigées par l'ex-président Saleh et aussi ont mis la main sur le gouvernement yéménite, c'est-à-dire ont essayé de contrôler tous les rouages en fait de l'administration yéménite du simili-État qu'ils ont encore sous leur contrôle. Et donc c'est une lutte de pouvoir et de place, si on pourrait dire, avec aujourd'hui des critiques qui sont exprimées de la part de l'un et de l'autre dans leurs journaux respectifs qui sont publiés à Sanaa, donc dans la capitale, avec des accusations pour les Houthis concernant l'ex-président Saleh, comme quoi il ferait partie d'une cinquième colonne, donc des accusations extrêmement graves, et on pourrait peut-être s'attendre aussi si l'alignement avec l'Arabie Saoudite, disons, se renforçait, que des heurts armés puissent aussi survenir entre les deux parties.
Et si ces heurts armés intervenaient entre les deux parties, est-ce que ça profiterait au camp d'en face, finalement, au camp du président Hadi ?
Alors le camp du président Hadi, lui aussi, est très fragile. Hein. C'est une coalition aussi très fragile. Bien sûr, il représente la légitimité internationale. Il est soutenu par l'Arabie Saoudite et les pays voisins, pays du Golfe, et par l'Occident. Mais dans le même temps, ses forces armées sont très fragmentées, qui fait que sa position est aussi fragilisée par le fait que tout récemment, en mai, a été déclarée la création d'un conseil sudiste transitoire pour représenter les provinces du Sud, ce qui fragilise encore plus la position du président Hadi, avec cette menace séparatiste toujours vivante et active sur son flanc méridional, avec aussi une rivalité entre les Émirats Arabes Unis qui soutiendraient plus ou moins cette tendance séparatiste et puis l'Arabie Saoudite. Donc il y a véritablement aussi du côté du président Hadi aussi des signes de fragilité et d'une coalition dont la cohésion est très faible. C'est ce qui permettrait aussi finalement de réunir tous les acteurs politiques à la table de négociation, tous les acteurs politiques yéménites, parce que d'un côté ou de l'autre, effectivement, les points de faiblesse sont très forts, quoi, sont très présents.
Alors, vous l'avez dit, il y a la menace d'une sécession du Sud. Le projet d'État fédéral de 2014 ne pouvait pas résoudre ce problème ?
Alors, Alors le projet fédéral de 2014 semblait être la bonne solution pour que les régions du Yémen soient représentées, retrouvent une certaine autonomie de gestion, et puis cela permettait aussi une décentralisation du pouvoir. Mais dans le même temps, plusieurs régions étaient mal représentées, mal découpées, et c'est pour cela que les Houthis au nord ont justement enclenché leur mouvement de protestation parce qu'ils voulaient un accès à la mer du côté de la mer Rouge. Et puis pour le sud, ils se voyaient, eux, divisés en deux régions. Certains séparatistes étaient contre cette division parce que justement, ça repoussait un peu leur rêve de la restitution d'un État sudiste. Et donc, même si c'est la base aujourd'hui d'un règlement politique futur, il est certain que ces découpages vont être refaits. Mais évidemment, c'est un sujet extrêmement délicat puisque le mouvement sudiste, on le voit, est toujours actif et puis surtout parce qu'il il prospère sur le mécontentement des populations qui n'ont pas vu tous les bienfaits de la libération de leur région qui est survenue donc à l'été 2015. Donc il est vrai que c'est tous ces mécontentements qui finalement renforcent le sentiment séparatiste dans le sud.
C'est d'autant plus compliqué que, en plus du camp présidentiel, de ces sudistes, du camp des rebelles, il y a aussi Al-Qaïda, il y a aussi l'État islamique. Finalement, quelle est la situation actuelle sur le terrain et comment a-t-elle évolué ces derniers temps ?
Al-Qaïda et l'État islamique sont présents principalement dans les régions méridionales, dans le sud du pays. Al-Qaïda dans la péninsule arabique peut compter sur des soutiens locaux, notamment dans l'extrême sud, pas très loin d'Aden d'ailleurs, et donc souvent attaque des convois militaires, attaque des positions de l'armée. Leur possibilité d'extension pour l'instant est encore limitée. L'État islamique, lui, se fait plutôt connaître par des attentats spectaculaires, mais n'a pas d'emprise territoriale conséquente. Il est évident que ces deux mouvements se développent sur, disons, une confessionnalisation du conflit qui est entre sunnites et zaïdites, zaïdites étant une branche du chiisme, et donc ils brandissent l'étendard de la lutte contre les chiites pour essayer de s'étendre dans certaines régions du pays. On a aussi la prolifération de groupes armés salafistes dans plusieurs régions du pays, donc on a véritablement là des menaces très fortes sur la sécurité du pays et des populations yéménites qui se développent du fait de la pauvreté, évidemment, de la catastrophe humanitaire qui s'y déploie. Et donc, c'est un défi extrêmement grand qui est posé non seulement au président Hadi, mais aussi à toute la communauté internationale.
Dans ce contexte complexe, l'envoyé spécial de l'ONU au Yémen souhaite un cessez-le-feu avant le début du Ramadan fin mai. Est-ce que vous pensez que c'est une solution envisageable, c'est une possibilité ?
Alors, il y a déjà eu des cessez-le-feu qui ont été déclarés. Et effectivement, pour l'Arabie Saoudite, le Ramadan est un moment symbolique très très fort où des négociations peuvent avoir lieu. Donc la proclamation d'un cessez-le-feu serait tout à fait envisageable et aussi permettrait finalement à la population civile de respirer et aussi à des négociations, soit secrètes, soit déclarées, de se faire, que ce soit à Riyad, au Koweït ou à Mascate, du fait que aujourd'hui, effectivement, la population non seulement est épuisée, mais aussi les acteurs politiques yéménites voient très bien que l'issue militaire n'existe pas et que les offensives menées par l'Arabie saoudite n'ont pas donné tous les fruits escomptés et que la prise du port de Hodeida qui était attendue est quand même assez irréaliste pour l'instant. Donc effectivement, le rapport de force militaire incline à penser qu'il y aura des négociations et un cessez-le-feu certainement pendant Ramadan. C'est important effectivement que des négociations se nouent très vite sous l'égide de l'Arabie saoudite et d'autres parties parce que c'est véritablement une guerre qui aujourd'hui, avec le blocus qui est imposé, entraîne véritablement une catastrophe humanitaire dont on peine finalement à prendre la mesure.
Justement, un dernier mot concernant cette catastrophe humanitaire. Il y a déjà la famine, il y a aussi une recrudescence du choléra. Comment est-ce que l'aide humanitaire pourrait être apportée ?
Alors, il y a déjà une aide humanitaire qui est apportée à partir du port d'Aden, hein, mais qui concerne surtout les régions méridionales. Il y a aussi des équipes de MSF, mais elles sont très peu nombreuses au nord. Donc, il faudrait aujourd'hui que le blocus soit levé pour que l'aide humanitaire puisse arriver sur le port de Hodeïda, qui est aujourd'hui aux mains des rebelles, et surtout aussi à l'aéroport de Sanaa, qui est toujours l'objet d'un blocus de la part de l'Arabie saoudite pour empêcher un approvisionnement en armes armes des rebelles. Donc il faudrait effectivement qu'un accord sous l'égide de l'ONU soit conclu et donc qu'on fasse pression aussi sur l'Arabie Saoudite pour que cette aide puisse arriver de manière massive dans toutes les régions du Yémen, parce que le Yémen est un pays fragmenté, il y a plusieurs lignes de front qui empêchent l'acheminement de l'aide humanitaire, donc c'est important effectivement que cette trêve humanitaire soit déclarée.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.